Hôtel Spatémaé, bonjour, Magali à votre service.
Sur place ou emporter?
C'est quoi ton plan de travail? Range, sois bien propre. Allez.
Ce sera tout.
Moi, je suis pour une société du travail.
Le patron, il est venu, il a dit non, c'est impossible de vous payer à l'heure.
Tous nos salariés, tous les fonctionnaires qui sont quelque part des petits aimants et que ces petits aimants soient orientés nord-sud pour faire un grand aimant. Vous avez le soutien du MEDEF.
Je ne rentrerai pas là-dedans. Là, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires. Hein. Vous le voyez, vous.
Je suis le candidat de la Société du Travail.
Je cherche le pourquoi les chômeurs ne respectent pas leurs obligations. C'est quoi l'urgence? C'est de chercher du travail.
Salut à toi, comme ils disent. C'est le retour de la turbine.
On s'est un peu dispersé dans les méandres du mois de mars, mais nous revoilà.
Aiguisés comme une lame,
pointus comme un couteau,
on vient tailler dans le gras du quotidien.
Et oui, on vient parler du turbin.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
L'idée ici, c'est bien de détricoter le boulot, en somme de comprendre ce qu'on y vit, d'entendre ce qu'on y lutte.
Désormais, on tentera d'être là tous les derniers mercredis du mois, à chaque émission son thème.
Et aujourd'hui, on se dépêche, on a rendez-vous à l'hôpital.
Mais écoutez, qu'est-ce que le patient attend aujourd'hui, n'est-ce pas? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes. Et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas?
L'hôpital est un petit monde et ça le rend bien insaisissable de prime abord. Un pulse de pôle, de service, de public, de privé.
Des spécialités toujours plus pointues qui viennent nommer les maux du corps et de la tête que produit ce monde de fous.
L'hôpital public, au même titre que la poste dont nous parlions il y a peu, est soumis aux restructurations libérales. Aujourd'hui, à l'hôpital comme ailleurs, les prolétaires sont précarisés, les places sont chères, la hiérarchie met la pression, la quantité de travail augmente et les salaires point du tout.
D'ailleurs, avec la réforme de la tarification à l'acte,
la T2A,
ils sortent le chronomètre et la calculette pour vérifier jusqu'où on peut pousser le bouchon de l'exploitation. Et avec tout ça, il faudrait continuer à soigner, à soulager, à prendre soin, à rassurer.
Et à sourire.
Il faut assumer la lourde responsabilité de la santé des gens.
À Toulouse, le CHU de Rangueil est mis en accusation par le CHSCT,
le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
pour se rendre compte, un petit extrait de leur rapport, ouvrons les guillemets,
entre omniprésence des risques psychosociaux, management délétère et propos violents, les indicateurs d'alerte sont au rouge. Absentéisme, tension relationnelle, plainte. Et les troubles sont visibles et alarmants. Burn-out, dépression, tentative de suicide et suicide.
Dans cette compression, ou plutôt dans cet écartèlement, on voit que ça craque de partout. Alors qu'en est-il pour ceux et celles qui y bossent?
Quelles sont les répercussions dans le quotidien de chacun et de chacune?
Ces métiers de la santé ont-ils toujours autant de sens?
Et enfin, y a-t-il des résistances?
C'est un peu de tout ça dont on va causer aujourd'hui dans la turbine.
Alors on ouvre ses oreilles et c'est parti.
On commence notre immersion par une manif. C'était le 7 mars dernier à Toulouse. Une partie de la fonction publique était dans la rue et sous la pluie.
Derrière la douce ambiance sponsorisée par les chars syndicaux, tendons l'oreille pour écouter des grévistes, infirmières, ASH, AS, IAD, car sous les acronymes, on trouve en fait des personnes en colère.
Et en lutte.
Nombreux et nombreuses dans la rue, on va s'avancer pour être plus près des fenêtres du directeur général, me dit-on à l'oreille.
Cette petite pause devant l'Hôtel Dieu pour lui dire tout d'abord que c'est pas la première fois qu'on est dans la rue, et ce sera certainement pas la dernière fois, au vu de la politique pratiquée à l'hôpital aujourd'hui. je vais pas pouvoir faire la liste de l'ensemble des secteurs services qui ont été en grève à l'hôpital ces derniers mois, ces dernières années. En ce moment, on en a plusieurs. On a la grève de la radiologie, on a la grève des aides-soignantes et des sages-femmes de la maternité. Je pense qu'on va les applaudir. On me ressouffle à l'oreille que les SIAD sont aussi en nombre aujourd'hui.
On a fait 5 ans d'études, ça a été reconnu qu'on avait bac plus 5, mais maintenant ils ne veulent pas nous mettre une grille salariale adaptée par rapport aux autres professions comme les sages-femmes qui sont reconnues bac plus 5. On a jusqu'à 600 euros d'écart de salaire mensuel, donc nous maintenant on veut une revalorisation salariale. Tout ça rajouté à un contexte hospitalier qui est dramatique avec une pénurie de personnel. Il faut faire de plus en plus de chiffres avec de moins en moins de personnes. Voilà, donc les gens sont un peu en train de craquer par des arrêts maladie, des gens qui ne sont pas remplacés, et voilà. On a quand même la vie de gens entre nos mains. Donc, le problème, c'est que je pense que ça, avec le changement de gouvernement, nos chances vont encore plus s'amenuiser. Donc, on verra bien. Après, il faut bien se battre.
Moi, je suis infirmière aux urgences à Purpan, ça fait un an. Je suis contractuelle. On est 70% contractuelle dans mon service, sur 160 personnes. Il n'y a pas d'embauche, ça marche qu'avec du turnover, donc du personnel malléable que tu peux prendre, tu peux jeter comme des mouchoirs. Personne ne reste vraiment longtemps parce que les conditions de travail sont vraiment dures, que ce soit en termes physiques, mais aussi en termes d'accueil des patients, de comment sont traités les patients, l'accueil des soins apportés ou les non-soins apportés, le manque de lits, le manque de places, le manque de médecins, le manque de personnel. Tout ça, ça fait que les gens ne restent pas en fait. Il y a des gens qui sont dégoûtés, quoi, qui déjà au bout d'un an changent complètement de métier même. Depuis que je suis arrivée, il y a peut-être 60 personnes, 70 qui sont parties des urgences, notamment des anciens. C'est pour ça qu'il y a autant de contractuels chez nous. Et que les anciens qui ne supportent plus du tout la dégradation des conditions de travail et la dégradation de soins en général. Enfin, moi, je sais que quand j'étais à l'école, on nous disait déjà que la durée de vie professionnelle d'une infirmière, c'était 7 ans. Donc, parce que déjà, c'est un métier de meuf. Donc voilà, déjà, ça induit plein de choses. Et je pense que ça se dégrade encore plus. Là, il y a déjà des jeunes diplômés qui disent que non, en fait, moi j'ai pas signé pour ça, quoi. J'ai pas signé pour ça, j'ai pas signé pour pas pisser de la journée, j'ai pas signé pour pas boire, j'ai pas signé pour accueillir les gens, pour les laisser dans la merde parce que t'as pas le temps d'échanger, parce que de laisser une vieille sur un brancard pendant 24 heures, parce que ça c'est des choses vraies, tu vois. Vraiment, tu t'as pas le temps de pisser, t'as pas le temps de bouffer, c'est tout le temps, tu t'as en charge 6-7 patients, voire plus, parce que quand t'as des couloirs, tu prends encore en plus des couloirs. Tu fais pas correctement ton travail, t'es pressé par les médecins, t'es pressé par ta hiérarchie. Tu vois, t'as le truc de pas soigner correctement, tu vois. Et le truc de vraiment, physiquement, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Et là, ils parlent de supprimer des postes chez nous, d'être soignant, et ça, c'est n'importe quoi, quoi. Et encore, moi, je suis pas en grève, je suis en repos, hein.
Voilà. Il y a vraiment pas possibilité d'organiser.
Oui, et puis il y a aussi on a quand même un collègue qui s'est suicidé en juillet. Il n'y a pas eu de mobilisation, il y a une espèce d'abattement aussi, et puis un truc de conciliation des cadres de service. Mais là, depuis quelques semaines, ça commence un petit peu à faire du bruit chez nous, parce qu'on a un problème avec les postes qui vont être supprimés, on a un problème sur nos congés, parce qu'on se fait entuber sur le congé, mais ça c'est dans tout le CHU, ils posent des nouvelles méthodes de CA, et du coup, bon bref, on se fait entuber sur les congés. Là, ça fait deux fois qu'il y a des réunions qui sont convoquées, entre nous, pour voir ce qu'on peut faire, quelles sont les modalités d'action qu'on pourrait mener pour faire des choses et tout. Ça commence un petit peu à se mettre en branle sur des temps un petit peu où on peut discuter entre nous, quoi, parce qu'en vrai, t'as pas le temps. Même quand t'es en poste, t'as pas le temps, quoi.
Et l'hôpital n'est pas une entreprise, et la santé n'est pas une marchandise, et l'hôpital...
L'infirmière, elle a même pas le temps d'aller pisser. Voilà, je te le dis, ça se dit pas, mais quand je dis l'infirmière, c'est... tous les paramédicaux, en l'occurrence, ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps de soigner. On passe 45% de notre temps à regarder les procédures, à cocher des cases, à regarder l'ordinateur, et on n'a pas le temps d'aller voir le patient. Alors après, se retrouver entre nous, c'est même pas la possibilité, quoi. Et après, les temps collectifs, on les prend quand on est à bout et quand il y a vraiment une problématique très particulière. Et c'est ce qu'on a de plus en plus, donc des services qui se mettent en grève. parce qu'ils en peuvent plus, ils sont pas entendus, ils sont pas écoutés, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Voilà, c'est ce qui se passe de plus en plus. C'est partout pareil. C'est de toute façon les politiques d'austérité qui sont menées, elles sont menées pour l'ensemble des hôpitaux et de la santé en général. Les congés annuels ne sont pas pris, les repos ne sont pas pris. On arrive à la fin de l'année, les filles elles se traînent 150 heures cumulées dans l'année parce qu'elles n'ont pas pu prendre. Donc les RTT et compagnie, j'en parle même pas. Hein. Vous avez un taux de maladies professionnelles comme des problèmes de dos, des problèmes d'épaule qui sont très très importants.
Charge de travail, manque d'effectifs, salaire bloqué, privatisation, voilà ce qui ressort de cette première balade. Et on va pas se mentir, il n'y avait pas non plus énormément de monde à la manif.
Ouais, aussi parce qu'une des caractéristiques des métiers de l'hôpital et du soin, c'est que c'est difficile de s'y mettre en grève et donc d'arrêter le travail. Et c'est pour ça que la turbine s'est aussi rendue au CHU pour poursuivre la discussion.
On a été posé devant les urgences, entre les va-et-vient des ambulances et des brancards. Alors ça court dans tous les sens, il y a plein d'uniformes, on comprend pas bien qui fait quoi.
Mais quelques fumeurs posés au soleil, le temps de la pause, ont bien voulu papoter avec nous pour nous expliquer un peu plus ce qu'il se passe à l'hôpital. On a appelé ça les interviews trottoirs.
On est ambulancier, donc du coup de l'hôpital, donc nous on fait les transports internes à l'hôpital. Donc de service à service, on fait Rangueil, Larré, Purpan, l'Oncopole et les écoles dentaires.
Alors moi je suis en CDD depuis 6 ans, renouvelable tous les 6 mois. Comme on est en CDD, on ne sait jamais s'il y a une erreur ou autre, les sanctions, ça peut aller très vite. Pour se loger, une vie de famille, parce qu'on ne sait jamais, du jour au lendemain ils changent le contrat, des fois c'est 3 mois, et voilà, ça c'est le côté compliqué. Là. Et l'hôpital, normalement, on n'a pas forcément le droit de faire ça, mais... Comme il y a des gens qui sont derrière et qui veulent travailler aussi pour l'hôpital, du coup, ils le font un peu comme ça.
Moi, je suis en CUI, contrat unique d'insertion. Ouais, donc de toute façon, moi, je suis là que pour 2 ans. Donc, pareil, hein, pas le droit à l'erreur, mais après, moi, je sais que dans 2 ans, au revoir, quoi.
Là, il n'y a plus de création de poste, en plus.
Ouais, c'est ça, de toute façon, là...
Les départs en retraite ne sont pas renouvelés. Donc, il n'y a plus de création de poste, donc... Ils font des contrats de droit privé, ils veulent faire du privé dans l'hôpital public.
Voilà. En ce moment, les seules embauches qu'il y a nous dans notre service, c'est pour remplacer les arrêts maladie. Quoi.
Ouais.
Donc c'est des contrats de 3 mois.
Ouais. Pas renouvelés, c'est des 3 mois.
Et voilà. Et comment vous parleriez ou vous décririez les conditions de travail que vous vivez?
C'est le bordel, hein. Ouais. Voilà, on a... Là, nous, on a nos cadres, c'est en train de changer, c'est en train de tout être remanié.
Ils mutualisent, en fait, pour nous, ils mutualisent les brancardiers avec les ambulanciers.
Voilà.
Et voilà, donc il n'y a plus de recrutement, on ne peut plus monter dans les échelons, donc la paye restera toujours pareille.
Le plus gros souci qu'on a au-dessus de la tête, c'est la privatisation. Parce que les brancardiers, c'est en train d'être privatisés vachement. Donc nous, on se dit, on est les prochains sur la liste, quoi. Clairement, ça veut dire que c'est des compagnies comme Arcol, et du coup, qui sont payées vachement moins cher. Et du coup, nous, si c'est privatisé, nous, c'est mort. Hein, notre service, il coulera à petit feu, hein, comme les brancardiers.
Ça, c'est sûr. Et eux, ils peuvent juste nous reclasser dans d'autres endroits, ou même au jardinage, n'importe où, nous reclasser. C'est ce qu'ils peuvent faire. Ça leur coûte très moins cher. C'est sûr que l'entreprise qui est en train de venir, là, Arcol, n'a pas du tout les mêmes conditions de travail que nous, ça c'est sûr. Donc du coup, eux, c'est la rentabilité, c'est vraiment faire du chiffre. Donc ils veulent aller plus vite et les patients, c'est un peu vu comme des colis. C'est ça le problème, c'est que la qualité de soins n'est pas la même. Elle se détériore, mais on le voit, mais pas que pour nous, dans tous les services où on va, parce que nous on va vraiment partout à l'hôpital, on voit bien que la qualité de service, c'est de pire en pire, quoi. C'est vraiment désastreux.
Et il y a des perspectives de résistance à ça?
Ça serait un peu comme partout, il faudrait que tout le monde se bouge le cul en même temps. Oui. Mais le problème c'est que...
Il n'y a pas beaucoup de mobilisation.
Ouais,
quoi.
C'est ça, personne...
Ils divisent pour mieux régner, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas très...
C'est ça, et puis nous clairement on sait que au moindre petit mouvement d'orteil,
On a des petits contrats, donc la plupart, hein, donc du coup on n'a pas trop le droit de... De gueuler. On ne sait pas où on va aller, en fait, ouais, vraiment. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Déjà, en 6 ans, j'ai déjà vu beaucoup de détérioration. C'est vraiment, ça fait penser vraiment à la rentabilité. Le dimanche, on fait des scanners, des radios. Ils nous disent bien, c'est pas urgent. On le fait même le dimanche, mais c'est juste pour rentabiliser le scanner. Et pourtant, on est dans le public. On est là pour s'occuper de toutes les personnes, n'importe quel âge, n'importe quel, même s'ils sont riches, pas d'argent ou pas de famille ou autre. Et bien, pourtant, les soins sont de moins en moins bien faits.
Aide-soignante.
Voilà.
Depuis longtemps que vous êtes aide-soignante ?
14 ans,
moi. Ça fait 35 ans.
Ouais, ça fait 35 ans, mais pas sur l'hôpital.
Sur l'hôpital, ça fait 10 ans, moi. Toi, ça fait plus longtemps que moi.
Et sous quel type de contrat ? Vous êtes en contrat ?
Non, on est, titulaire. À l'époque, quand nous, on est rentrés, on restait stagiaire. Moi, j'étais contractuelle qu'un an. Après stagiérisé et titularisé. C'est la période. Ça dépend des périodes. C'est maintenant que ça bloque. Puis bon, en particulier les aides-soignantes. Hein. Les aides-soignantes, ils sont quand même en train de diminuer les effectifs, quoi. De les remplacer par des infirmières, en fait.
Comme nous, par exemple. On passe à une aide-soignante la nuit pour 10 malades.
Alors que normalement, on est censé deux. Voilà.
Et depuis
cette année, là, depuis un an, oui, dans les services, oui. Oui, il serre la vis, ça. Oui, ça, il n'y a pas photo, oui. Des postes qui ne sont pas remplacés, puis on le voit dans les autres services, quoi. Où les postes d'aide-soignante sautent.
Sans citer les urgences.
Sans citer les urgences, c'est le pire, oui. Nous, on est un peu protégés, quand même.
Et du coup, ce non-remplacement des aides-soignantes, quand vous dites qu'ils serrent la vis, du coup, ça a des répercussions sur vos conditions.
Ah ben oui, complètement, oui. Oui, mais oui, obligé.
Toutes celles qu'on remplaçait sont
arrêtées. Et puis même pour les infirmiers, parce que ceci dit, du coup, des infirmiers remplacent des aides-soignants. Les infirmiers, au départ, ils n'ont pas fait un diplôme d'infirmier pour faire aide-soignant. Comme il y a de l'absentéisme et qu'il n'est pas remplacé, il y a des maternités, et après il y a des gens épuisés aussi, des gens qui...
C'est physique et moral. Hein.
Oui, il y a des gens qui se blessent le dos, beaucoup.
Et puis tout abîmé du dos, ouais. Et puis après moralement, il y a beaucoup de... Il y a des filles en burn-out. Hein. On le comprend, oui, bah, on est dans des services qui sont quand même très difficiles, et moralement c'est que des équipes de jeunes... entre guillemets, mais voilà, il faut quand même avoir...
Après, il y en a beaucoup qui sont à la surveillance continue, qui viennent de la réanimation. La réanimation, moi, j'y travaille à 50%. C'est des services psychologiquement qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que c'est des malades... on a 30% de décès en réanimation, ce qui est normal, hein, ce qui est un taux à peu près normal. Hein. Mais puis des cas du jour au lendemain, c'est des vies qui se cassent la gueule, quoi. Donc c'est les entretiens avec les familles, c'est les familles à soutenir, c'est des cas des fois c'est du incroyable mais vrai. Donc c'est compliqué des fois, c'est vraiment compliqué des fois à gérer psychologiquement. De toute façon, pour être là, il faut aimer son métier, sinon avec... Vous savez, les nuits, les week-ends, les fériés. Non mais c'est vrai. Je pense qu'il faut aimer son métier, sinon on ne reste pas là.
Alors, moi du coup, je suis externe en médecine, c'est-à-dire que je suis étudiante en 6e année. Et l'année prochaine, je passe interne. Donc là, je fais des stages en fait dans différents services de l'hôpital. La plupart du temps, ça dure à peu près 2 mois. Et là, en ce moment, je suis aux urgences. Donc, je fais des gardes par-ci, par-là, quoi. Un peu éparses, mais voilà. J'ai décidé que j'allais faire médecine en terminale, donc j'étais pas du tout partie à la base. Enfin, je m'étais pas toujours dit, je vais faire ça depuis toujours ou quoi, comme des fois on entend. Il y en a, hein, mais moi, c'est pas mon cas. Et après, j'ai eu des gens, en fait, dans mon entourage qui ont fait ces études-là et qui m'ont donné envie, en fait, de... Moi, je fais ça pour faire médecine générale et j'ai pas très envie de bosser à l'hôpital, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et j'aime pas trop parce que c'est vachement hiérarchisé. C'est hyper, t'as le chef, après t'as l'interne, les infirmières, les externes. Enfin, c'est comme ça, il faut respecter la hiérarchie Moi j'ai un peu du mal, des fois t'es un peu en gros en bas de la pyramide, c'est toi qui fais un peu le, je mets des guillemets, mais un peu le sale boulot, tu leur mâches un peu le travail, moi je trouve que c'est pas le plus épanouissant. Et en plus il faut avoir fait une carrière un peu, pour faire une carrière hospitalo-universitaire, il faut vraiment avoir fait des trucs en plus de tes études, des cours en plus, tout ça, les places sont chères, faut un peu se battre, enfin moi j'aime... Je ne suis pas assez carriériste, je pense. Je suis complètement d'accord quand on dit que maintenant, l'hôpital, c'est plus du tout adapté à la population. C'est-à-dire que maintenant, tu soignes énormément de gens qui sont assez âgés, qui sont polypathologiques, donc qui ont plein de pathologies un peu intriquées, des choses un peu chroniques comme le diabète ou la tension, tout ça. Et les services ici, pardon, c'est hyper spécialisé. Donc, tu vas avoir un médecin qui est hyper spécialisé dans le rein ou je ne sais quoi, et qui ne va pas soigner un patient dans son ensemble. Le patient, ça le perd en plus de ça, puisqu'il voit, ça multiplie le nombre d'intervenants, il comprend plus. Enfin, il voit, déjà qu'à l'hôpital, il voit un nombre de personnes incalculable. Voilà. Donc je trouve que ça perd plus les gens qu'autre chose, et puis ça fait perdre du temps, tout simplement. Même aux personnes qui viennent dans le service pour prendre en charge ce fameux problème. Enfin, ça fout un bordel pas possible, je trouve. Voilà, et puis. Effectivement, par exemple, la nuit... bon, après, moi, je trouve que c'est particulièrement les infirmières ou les aides-soignantes qui en pâtissent. Mais problème d'effectifs, ça, c'est sûr. Surtout la nuit. Elles sont toutes seules, c'est assez compliqué, ouais. Il manque de l'effectif, ça, c'est sûr et certain. Il faut... ça, c'est sûr. Et oui, c'est tous les problèmes qu'il peut y avoir à côté d'organisation, le problème pour joindre quelqu'un, le problème de place dans les services. Des fois, il n'y a pas de place, tout simplement. Ça oui, c'est qu'il manque du monde, vraiment c'est difficile, ils font beaucoup d'heures. Aux urgences par exemple, quand tu fais 18h, 8h et que le lendemain tu dois aller dans ton service pour faire la réunion, enfin, c'est pas... je me dis, là tout de suite je me dis j'en suis pas capable, je pourrais pas faire ça, mais peut-être que si, mais je m'en sentirais pas capable quoi. Après je dis pas, peut-être qu'avec 30 ans de métier on change, hein. Ça je dis pas, hein, c'est possible, on verra. Puis nous, on est vachement, là, les futurs médecins, on est vachement éduqués dans le sens à limiter le nombre d'examens pour faire des économies, faire moins de prises de sang, de scanners, de radio pour faire des économies. Ils nous en parlent beaucoup de ça, ouais. Beaucoup plus qu'avant, je pense.
Et maintenant, notre rubrique, les mots du travail.
Les mots ?
Bah, les mots.
Ah, les mots !
Ben oui, les mots. Dans La Turbine aujourd'hui, de l'origine du mot grève. Si le refus du travail, l'arrêt du travail remonte à des temps lointains, aussi lointains qu'est vieille notre exploitation, le mot grève, en revanche, n'a pas toujours eu ce petit sens qui nous plaît tant. Pour la petite histoire, la place de grève était une place que l'on trouvait à Paris. Elle s'appelait ainsi parce qu'il y avait une grève.
C'est dingue!
C'est-à-dire un quai en pente douce plongeant dans la Seine. Cette grève permettait le déchargement des nombreuses marchandises transportées sur le fleuve et livrées à Paris via ce qui était durant un temps son port le plus important. Jusque vers 1850, place de grève, c'est là où les patrons venaient chercher, en fonction de leurs besoins, du personnel. S'y réunissaient alors les ouvriers qui attendaient l'embauche.
Ah, du coup, être en grève à cette époque, c'est d'abord être sans travail.
Tout à fait. Évidemment, il arrivait à ces journaliers de manifester leur mécontentement à propos des salaires, des conditions de travail. Cette expression a donc progressivement évolué et c'est vers 1845, en France, qu'être en grève prend son sens actuel.
La grève passe alors du sens d'absence subie de travail et donc de chômage à celui de refus ou d'arrêt du travail.
Tout à fait. On pouvait même entendre à cette époque l'expression « mettre son patron en grève » qui désignait par là le refus de travailler pour lui. Ce mot servira désormais à désigner un moyen d'action, l'arme privilégiée de nos luttes, la grève. Et des grèves, il y en a de toutes sortes. On parle même des 50 nuances de grève.
50 nuances de grève.
Partielles.
Sectorielles.
Catégorielles.
Tournantes.
Perlées.
Du zèbre.
Sur le tas.
Surprise.
Sauvage.
Général.
Général.
Ouvriers, ouvrières, je vous parle au nom de vos camarades étudiants. Il est 8h du matin. Voir lorsque vous sortirez, il fera déjà nuit. Pour vous, la lumière du soleil patronale, répondez par la violence révolutionnaire. Sabotez la production. Refusez de travailler. Refusez de travailler.
Je propose de cesser immédiatement le travail.
Bon, on reprend maintenant le cours de notre sujet, et on retourne voir les soignants, et en l'occurrence les soignantes, puisque la Turbine est allée prendre le thé avec Paul. Paul qui est toute nouvellement infirmière. Et avec elle, on a pris le temps de discuter de ce que ça voulait dire, de faire ce métier, du soin, de ces choix-là, des conditions de travail, de l'ambiance, du collectif, de tout un tas de choses. Et puis, on vous fait écouter ça maintenant.
Du coup, moi, je travaille comme infirmière dans un service de chirurgie à Rangueil. Et ça fait pas très longtemps, ça fait maintenant, je crois, en tout un mois et demi. Ça fait une semaine que je suis en congé, ce qui n'est pas désagréable, et ce qui me fait prendre du recul aussi. Mais ça fait un mois et demi que je suis dans ce service-là de chirurgie à Rangueil. Et avant, je travaillais à Rangueil. Ça fait peu de temps que j'ai mon diplôme, mais j'ai eu un contrat, un CDD à Rangueil, le premier aux consultations. Je comptais pas y rester parce que je trouve que c'est pas intéressant, que c'est non seulement critiquable par rapport à la prise en charge avec les patients, mais que moi, simplement, ça me faisait chier. C'est un endroit où je m'ennuyais profondément. Et du coup, elle m'a proposé un contrat dans le service où je suis maintenant en chirurgie. Après, j'ai bossé un peu en intérim, où j'ai réussi à avoir du boulot assez facilement. Enfin, du coup, il y a vachement d'intérim, en fait, maintenant, au niveau du boulot infirmier. Moi, j'ai trouvé ça assez dur et inconfortable, dans le sens où tu arrives dans des services qui sont en souffrance, parce que les infirmières travaillent trop, donc elles se mettent en arrêt maladie. Donc, les cadres et les directions compensent par de l'intérim. Et toi, t'arrives, t'es pas formée. Pour le coup, j'arrivais, c'était mon premier poste, ça a été en intérim, dans une équipe qui en peut plus, était censé prendre en charge les gens qui sont malades. Donc c'est vraiment hyper inconfortable, je trouve, à tous les niveaux. T'as l'impression de faire de la merde tout le temps. Et du coup, t'en repars pas. Enfin, moi, j'étais pas rassurée de ce que j'avais fait de ma journée. Donc tu survoles. Et tu fais le travail vraiment basique, la représentation de l'infirmière. Tu appliques des prescriptions médicales bêtement. Et c'est forcément insatisfaisant et forcément le côté le plus frustrant du boulot. Enfin, où t'as vraiment l'aspect la piqueuse. T'arrives et tu piques les gens et tu leur donnes des...
Et tu cours.
La piqueuse.
C'est un peu ce truc, tu vois, l'image de l'infirmière qui te fait des piqueuses. T'as l'image quand même, je trouve, de l'infirmière. Tu sais que... Mais dans les symboles où tu les vois avec des grosses seringues... Voilà, elle est sexy, elle a des seringues. La réalité, c'est qu'on n'est pas sexy dans les blouses et qu'on ne fait pas que piquer les gens.
Et toi, qu'est-ce qui a motivé le fait que tu aies eu envie de faire le concours d'infirmière ou...
Alors ça, pour le coup, c'est tout un parcours. J'ai vraiment du mal à y répondre. Je ne sais pas très bien. Après, je viens d'une famille où dans ma famille, il y a toute une partie qui est dans la branche médicale. Et je pense que ça joue, simplement un truc de reproduction aussi. Il y a une branche qui est dans la médecine et une branche qui est instit. Ma sœur est instit et moi maintenant je suis infirmière. Et il y a vraiment un truc de reproduction. Et du coup, je ne sais pas très bien, j'aurais du mal à y répondre. Après, c'est au confluent de plein de trucs pour moi. Je considère que la santé, c'est quelque chose qui est... où tu vois aussi les limites des classes. T'as les problèmes de santé, tu vas pas avoir le même taux de cancer chez les bourgeois que chez les proles, tu vas pas avoir la même prise en charge, etc. Donc, d'un coup, tu peux agir un petit peu sur toutes les classes de la population. Et dans l'hôpital public, t'as encore ça, où tu peux un peu soigner tout le monde, faire du bien. Et où tu peux agir sans être... je sais pas comment, c'est assez compliqué... Ça va être non plus complètement coincé comme dans le social où t'es face à l'injustice. Là, t'as un mélange d'injustice et d'un truc que tu peux un peu traiter quand même. Où t'es pas non plus complètement confronté.
Face à un fatalisme.
Ouais. Pas seulement un fatalisme, face à toutes les incohérences, enfin toi, à toutes les injustices de la société. Tu l'as un peu, mais tu peux traiter quand même les choses. Tu fais pas que des pansements comme tu vas dans le social. Ou simplement t'as un système qui détruit des vies et tu vas y pallier. Et moi, c'est une souffrance que je pourrais pas tolérer. comme des gens qui bossent dans le social, ne pourraient pas tolérer d'être face à la souffrance que tu vas avoir à l'hôpital. C'est juste des rapports différents et des sensibilités différentes. Et moi, celle-ci, je peux la tolérer, je peux l'encaisser. Et du coup, j'ai l'impression que je peux un peu agir dessus, avec toutes les limites qu'il peut y avoir et auxquelles tu es forcément confrontée. Mais tu as aussi le truc de... On n'y peut rien. Même si, comme je disais, le cancer, c'est... il va être plus présent chez les classes populaires, prolétaires, etc. Et c'est une réalité. Enfin, juste, tu n'es pas confronté à l'amiante de la même façon que tu viennes de quartiers très chics que de quartiers plus pauvres, etc. Et en même temps, tu as plein de maladies où on est tous humains et les corps, ils sont tous infaillibles. Et là-dessus, on est un peu tous égaux. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et c'est fatal. Et du coup, c'est moins enrageant aussi que d'autres choses où tu te dis que là, je pourrais avoir un impact. Ou juste, le monde, il devrait faire en sorte que ces gens-là, ils s'en sortent. Qu'il y a pas... Tu vois, et du coup, c'est plus supportable.
Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu as eu ton diplôme ?
9 mois.
Que
je suis un bébé infirmier.
Comment ça se passe, la confrontation entre cette envie-là et puis la réalité que tu vis dans ton travail ?
Ouais. Mais du coup, elle est... Il y a un truc où je me dis que... Du coup, là, je bosse à l'hôpital public par choix. Et aussi parce que du coup, j'y vois des choses très, très chouettes. T'as par exemple le truc où t'as des traducteurs pour les étrangers qui viennent. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et t'as même des hospitalisations qui se font. T'as des fois, simplement, le cas de la personne fait que c'est obligé qu'elle soit hospitalisée. Et donc, c'est pas les chirurgiens, les médecins, etc., ne réfléchissent pas forcément en se disant est-ce qu'il va pouvoir payer ou pas. C'est juste cette personne, son statut social fait qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital. Et les questions après administratives et de sécu, etc., se posent dans un deuxième temps, que je trouve hyper appréciable. Mais vraiment, enfin, et qui existe encore. C'est en train de se détruire complètement, mais qui existe encore. Et à côté de ça, qui sont juste des instants où tu vois ce que devrait être la santé, t'as tout le reste où t'as le quotidien à l'hôpital, où finalement, du coup, la personne va être hospitalisée, quelle qu'elle soit, et après, t'as comment elle va être traitée, par contre. Et c'est ça que moi, je trouve hyper compliqué au quotidien. C'est que t'as l'hôpital public est ouvert à tout le monde, et en vrai, même avec des mutuelles pourries ou sans mutuelles, tu peux être hospitalisé, tu peux être soigné, mais dans quelles conditions? Et c'est là où je trouve ça compliqué. Et t'as les deux. T'as la condition du patient qui fait que passer. Et plus ça va aller, plus on veut qu'il rentre et qu'il ressorte le plus rapidement possible. Et t'as la condition des infirmières, et du coup, notamment moi. Et comme ça fait plus longtemps que j'y suis, je dis souvent « Ouais, elles en chient vachement. » Mais en vrai, on en chie vachement. Et du coup, de fait, eux, ils en chient aussi, les patients. Et là, ça ramène plein de choses. T'as le rapport au travail, t'as le rapport à la santé, t'as le rapport du corps médical qui a un savoir et des patients qui sont complètement démunis et désappropriés de tout ça, et des infirmières et infirmiers qui peuvent pas faire le boulot qu'ils devraient. Et moi qui ai plein d'idéaux par rapport à tout ça, je me rends compte que dans ma pratique au quotidien, j'ai vraiment pas celle que j'aimerais avoir. Et que...
Comme quoi, par temps...
Le fait de prendre le temps de se présenter. Tu vois, je me dis, quand t'es patient, en fait, t'es vraiment en train de subir tout ce qui se passe autour de toi, du moment où... Et là, je suis en chirurgie, en plus, où t'as vraiment... C'est pas des maladies chroniques, t'as un rapport différent des malades qui ont des maladies chroniques, qui apprennent à la maîtriser et qui, du coup, sont considérés souvent par les médecins et les infirmiers et infirmières comme des chieurs. Parce qu'en fait, ils connaissent très bien leur corps, ils savent très bien comment ça fonctionne. En chirurgie, c'est différent. Ils sont très démunis, en général. Il leur arrive une tuile... T'as un chirurgien qui leur dit « on va vous enlever ça et ça va mieux aller ». Du coup, ils arrivent pour être pris en charge. Et moi, je me dis que c'est hyper important qu'ils se réapproprient aussi tout ça. Mais ça, c'est vraiment que de la parole. En vrai, des fois, j'arrive dans leur chambre, j'ai pas le temps, faut que je leur fasse une prise de sang.
Mais t'as piqûre, t'arrives avec
mais ta ouais, piqûre. Mais même, j'oublie de dire que je suis l'infirmière qui bosse l'après-midi. Il y a trop de personnes dont il faut que tu t'occupes et qu'il y a trop de choses qui sont annexes au travail proprement infirmier. Que t'as pas le loisir de faire attention à comment tu pratiques.
Si ça vous dit, on se fait une petite pause musicale. Et aujourd'hui, on monte à la capitale
puisqu'on écoute Paris défend de Sages comme des sauvages.
Te voilà bien cultivé comme à l'agonie. Te voilà seul à douter devant tes amis. Tu n'as pas su retrouver l'annonce élégante qui garnirait ton CV de boulot navrant. Te voilà bien intégré, le pauvre ou le sombre. Te voilà bien résigné dans ton bel habit. Paris défend ses intérêts. Paris défonce ses enfants par milliers. Paris étend son rayonnement. Mais de l'autre côté, serrer les dents n'est pas assez.
De retour dans la turbine qui parle aujourd'hui de l'hôpital et on reprend tout de suite le cours de notre discussion avec Paul. Et pour reprendre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la quantification?
Toute la réforme de la T2A, du coup, qui est la tarification à l'acte, où effectivement il faut montrer que l'hôpital a suffisamment d'activités et du coup toutes les activités sont quantifiées et justifient des moyens qui vont être donnés ensuite à l'hôpital. Et donc ça fait que chaque acte va être, il faut qu'il soit un petit peu rentable. Et donc on quantifie qu'une prise de sang, ça, et dans les manuels infirmiers on l'a, une prise de sang, elle doit prendre 2 minutes. Mais du coup ça enlève complètement le côté humain, c'est-à-dire que tu viens et tu vas piquer quelqu'un, tu vas lui prendre son sang, et effectivement l'acte en lui-même, je pense que de passer un coton avec de l'alcool, de piquer, il prend 2 minutes. Tout ce qu'il y a à l'extérieur n'existe pas du tout. Et que tu as du coup une logique de l'hôpital, par contre, où il faut faire de plus en plus d'actes, puisque c'est selon l'activité que tu... Mais comme n'importe quelle entreprise, selon l'activité que tu vas produire, et bien, du coup, tu as des sous qui vont en conséquence.
Tu remplis des lignes de subvention, d'une certaine manière.
Exactement.
De financement, quoi, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Il faut justifier ton activité.
Et ça, c'est contrôlé, ces histoires d'actes à quantifier, c'est contrôlé parce que... Toi, tu notes, tu références tout ce que tu fais?
Nous, on doit coter nos actes. Alors, nous, tout ce qu'on fait à chaque fois, il faut qu'on valide dès qu'on fait la moindre chose. Il faut le marquer, alors, soit sur informatique, soit sur papier.
Mais c'est-à-dire concrètement, pour s'imaginer, dès que tu as fait un soin, dès que tu as pratiqué un soin, tu reviens dans une pièce commune, un bureau, j'imagine, où tu rentres le soin que
tu
as fait.
C'est ça. Bon, en général, tu les fais maintenant, tu les fais au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu te trimbales dans le couloir avec un chariot, tous les médicaments, un ordinateur sur lequel tu peux rentrer pas mal d'actes. Après, là, dans l'hôpital dans lequel je suis, tu as aussi une version papier, donc tu notes aussi sur le papier. Mais dès que tu poses un cathéter, que tu enlèves un cathéter, que tu fais un pansement, que tu défais un pansement, que tu donnes un médicament, tout est noté. Et il y a vraiment les deux. Tu as un truc où c'est en vrai hyper important, juste pour un truc de continuité des soins, que ta collègue, elle sache que tel cathéter, il a été posé. Et on en a besoin entre nous pour travailler correctement. Mais tu as aussi une pression qui vient de la part des cadres en général, de il faut justifier de l'activité. C'est-à-dire que, et les aides-soignantes en général, elles ont vachement la pression là-dessus de si tu fais un change, si quelqu'un, tu as des patients qui ne peuvent pas se changer eux-mêmes, qui ont des protections, qui se souillent, etc., il faut noter est-ce que tu l'as changé au lit, est-ce qu'il peut se lever, est-ce qu'il peut se mobiliser. Et tout ça n'est pas fait pour la bonne prise en charge du patient. En vrai, c'est des transmissions. On a des moments où on se passe les informations entre nous qui suffisent, toi, pour la continuité des soins. Là, c'est vraiment pour justifier le moyen.
Toi, tu travailles à... Vous avez combien d'infirmières sur ton service ?
Comme la plupart des services, les services sont divisés en secteurs. Et là, il y a deux secteurs et on est une infirmière par secteur. Et on a chacune 13 patients. Et 13 patients, ça veut rien dire. Tu as des services où 13 patients, ça va être assez cool. Là, en l'occurrence, le service dans lequel je suis, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Parce que c'est, selon moi, impossible de faire du bon travail.
Et quand tu parles de faire du bon travail, toi, tu t'entends quoi ? Il y a de trucs auxquels tu penses quand tu dis bon travail ?
Ouais, pour moi, c'est de pouvoir prendre le temps de regarder les comptes rendus médicaux, savoir ce qu'il a vécu avant d'arriver là. En fait, tu as tout un tas de dossiers qui ont été faits par les médecins qui te disent que la personne a telle et telle pathologie. D'apprendre à connaître tout ça, qui fait que tu sais après pourquoi tu lui donnes tel médicament. Tu as des patients, ils arrivent avec leur... Ils sont en général pas tout jeunes quand même. Et ils ont, je sais pas, des médicaments antihypertenseurs, de savoir pourquoi ils les ont. Toi, ils ont des anticoagulants. Pourquoi est-ce que... Et du coup, toi, tu reprends ça et tu vas leur administrer... Juste de comprendre ce que tu es en train de faire. Enfin, pas faire un boulot bête et méchant de... Ok, bon, bah, il faut que je lui fasse... il est diabétique, il faut que je lui fasse tant d'unités d'insuline, de voir d'où est-ce que ça vient. De lire tout ça et après, de prendre le temps avec la personne. Quand tu as le temps de le faire, c'est tellement délicieux. Enfin...
Ouais. Et puis j'imagine qu'il y a quelque chose d'assez stressant et peut-être qui contribue à expliquer en partie certains burn-out aussi. Mais les médecins attendent vraiment votre analyse quoi, d'une situation, attendent votre expertise clinique d'un patient, donc de faire remonter les choses. Donc ça, il faut et le savoir-faire et le temps de le faire. Mm-hmm. Donc à la fois, il y a beaucoup d'attentes sur les signalements que vous avez à faire. Et à la fois, on ne vous donne pas vraiment, si je comprends bien, quand même, les conditions matérielles et techniques de le faire. Donc ça, j'imagine, ça doit créer une espèce de contradiction.
C'est hyper contradictoire. Et tu as une machine qui t'empêche complètement de le faire. Il n'y a ni le temps pour le faire, et ni la reconnaissance non plus, du coup, de ce qui peut être fait. Non. Ouais, mais vraiment, et de, que ce soit au niveau des comptes de travail ou même au niveau de la paye. Et en vrai, derrière, par contre, tu as des attentes qui sont énormes, énormes, et notamment de la part de l'institution.
Toi, tu as du stress le soir quand tu rentres chez toi?
Je me fais des insomnies de ouf.
Qui sont liés à ton taf?
Ouais. Et qui sont liés à mon taf, et après, qui sont liés au fait que je découvre ce taf, et la plupart des infirmières le disent, c'est qu'au début... Tu te refais toute la journée dans la tête. Et moi, je ne m'y attendais pas, mais quand j'ai commencé la formation, je ne m'attendais pas à cette charge de responsabilité, en fait. Et donc, je ne peux pas encore complètement remplir, parce qu'il n'y a qu'avec l'expérience que tu peux bien, bien le faire. Mais qui est vraiment d'un savoir. Bon, les collègues que je vois qui ont de l'expérience, elles m'impressionnent dans leur finesse d'analyse, dans leur compétence, dans leur connaissance, capacité. Enfin, toutes le disent au début. T'as un truc où forcément tu te refais ta journée dans la tête, La plupart, au bout de quelques années, continuent à se la faire, mais c'est quand même un peu moindre. Et là, particulièrement dans le service où je suis, qui est comme vraiment à flux, enfin qui est hyper chargé. Déjà, celles qui ont de l'expérience continuent à avoir ce truc où elles repartent, elles sont pas tranquilles. Et moi, d'autant plus, du coup. Je me la refais, mais 10, 20, 30 fois. Enfin...
Toi, avec tes quelques mois d'ancienneté d'infirmière, tu t'es retrouvée, tu te retrouves du coup toute seule avec 13 patients. Ça s'est fait rapidement, t'es arrivée et
j'ai
un temps de formation. Okay.
Bon, j'ai été doublée pendant une semaine et après, ouais, j'étais toute seule.
C'est ça.
Mais ce qui est déjà pas mal quand tu penses par rapport à l'intérim, où en fait en intérim, ils en ont rien à foutre. J'avais jamais bossé toute seule comme infirmière et là t'arrives, tu débarques dans un service et tu bosses. Comme si tu comprenais ce qui est en train de se passer. Mais on n'est pas débile, enfin toi, personne. Donc tu comprends, mais n'empêche que c'est plus que limite. Et là, une semaine de formation, c'est pas mal, mais ça suffit pas du tout pour comprendre toutes les pathologies qu'il peut y avoir dans le service, ni tous les médicaments. Et encore une fois, c'est à la limite, tu pourrais si le rythme de travail faisait que tu avais le temps de t'approprier tout ça. Là, c'est pas le cas. Du tout, du tout. Mais t'as un glissement des tâches qui va là aussi pour les aides-soignantes. Du coup, comme c'est surchargé au niveau de l'hôpital et que les médecins aussi sont surchargés et les internes au niveau de ce qu'ils ont à faire, ils peuvent pas. Enfin, après, il peut y avoir deux choses à critiquer sur les médecins, les internes, leur formation et leur rapport aux infirmières, mais il n'empêche que, et leur paye, n'empêche qu'ils ont vraiment une charge de travail qui est ahurissante. Du coup, ils ont tout ça, donc ils font vachement de glissement de tâches au niveau des infirmières. Et tout comme les infirmières ont des attentes au niveau des aides-soignants qui dépassent complètement. Et plus ça va, plus les aides-soignants se retrouvent avec des choses qui ne sont pas de l'ordre de leurs tâches. Et qui débordent du coup sur ce qu'ils ont à faire par contre à côté. Et qui débordent du coup souvent sur les ASH, qui sont les agents de service hospitalier. Mais ouais.
Et est-ce que vous avez des espaces de discussion potentiels à la pause, par exemple, entre vous pour... débriefer tout ça?
Là, dans le service où je suis, on n'a pas de temps de pause. En règle générale, on n'en a pas. Quand tu en as, c'est très rare. Et du coup, forcément, c'est le temps d'évacuer et même de partager. Parce que du coup, comme c'est divisé en deux secteurs, des fois, tu es en pause avec une infirmière qui, là, je sais pas, deux jours avant, avait le secteur que tu es en train de prendre en charge. Et du coup, on en parle en disant « Oh putain, il est lourd ce service, etc. » Là, moi, je suis en train de galérer avec tel et tel patient. Ben moi, non, je galère pas avec. Au contraire, ça se passe super bien, je l'adore. Mais généralement, les temps de pause sont très rares. Tu peux les compter sur les doigts de la main.
Concrètement, tu n'as pas de pause.
Concrètement, il y a des jours où je me pose pas, ni pour manger, ni pour boire un café, ni pour pisser. Où tu peux vraiment, vraiment pas t'arrêter. Où tu commences pile poil à l'heure. Parce que c'est quand même une exigence où t'arrives à l'heure pour les transmissions et par rapport aux collègues, c'est pas cool d'arriver à la bourre. C'est-à-dire que si elles ont fini leur journée à l'heure, elles ont envie juste de transmettre la journée et de se barrer et de rentrer chez elles. Donc t'arrives en général à l'heure, voire en avance. Les équipes de nuit en général arrivent facilement un quart d'heure à l'avance.
Et le temps de transmission, pardon de te couper, il est calibré? C'est vous qui le définissez?
Non, c'est calibré. Et pour la nuit, ils considèrent qu'il y a un quart d'heure pour faire les transmissions pour les 26 patients. Ce qui est juste impossible.
Une demi-minute d'information.
Voilà. Et donc, évidemment, eux, ils arrivent à l'avance. Mais c'est vrai, c'est hyper bâtard. Pour éviter que l'équipe de l'après-midi qui est fatiguée finisse à la bourre, même s'ils arrivent un quart d'heure à l'avance, on finit à la bourre. De toute façon, tu finis jamais à 21h12. Ça n'existe pas. Et que non seulement tu finis à la bourre, mais en plus tu finis à la bourre en ayant l'impression de ne pas avoir fini ton travail et en te disant « Putain, merde, ce que je laisse à mes collègues. »
Et cette absence de moyens, de personnes et du coup la conjonction des deux, je me demande est-ce que c'est entendu et connu par les gens juste au-dessus, les gens encore un peu au-dessus, la direction.
Du coup, tu as des rôles qui sont clés. Tu as le rôle de la cadre et de la cadre sup. Parce qu'effectivement, du coup, à l'hôpital... s'organiser, t'as les cadres, elles s'occupent d'un service, par exemple, tu vas avoir une cadre pour la médecine. Après, t'as la cadre sup qui, elle, s'occupe d'un pôle. Et après, t'as la direction. Et tout ça, t'as fait un petit peu des strates qui étouffent à chaque fois la révolte de ceux qui viennent d'en bas et des gens qui sont là pour pallier à ça et les étouffer et qui sont complètement d'accord avec ce rôle-là, même s'il n'est pas facile. Et du coup, toi, quand tu es dans le service, tu fais revenir à la cadre, en général, qui est une ancienne infirmière. C'est en train de changer, ils veulent revenir là-dessus aussi, faire en sorte que tu aies des écoles avec simplement des masters généraux, et donc qui ne sont pas du soin. Du coup, elle a effectivement ce truc où elle entend, parce qu'en général, c'est quand même des nanas qui sont assez jeunes, qu'il n'y a pas très longtemps, elle était en service, elle voit bien les difficultés. Et en même temps, ces personnes, elles ont très envie de monter en grade. Elles disent, ouais, mais c'est comme ça. Et t'as ce truc où l'hôpital est en difficulté, mais c'est vraiment tout comme tu parles dans la société, donc bah, on va tous en chier ensemble, il faut serrer un peu la ceinture, et si on ne prouve pas qu'on a une bonne activité, on va encore plus nous enlever de moyens. Et t'as vraiment un chantage qui est fait de... Au contraire, les filles, là, faut y aller, mais vraiment, faut envoyer du soin, tu vois, pour justifier que notre secteur, il marche bien, et du coup, on va gagner des moyens. Et en fait, ça ne marche pas comme ça, juste, ça prouve que on est capable, à tant d'effectifs, de faire tant de travail et sans qu'il y ait trop de dommages très graves. Et du coup, effectivement, on est, mais comme n'importe où, tu es toujours capable de produire plus et de faire plus. Sauf que les dégâts à côté, ils sont assez impressionnants. Mais ça continue à rouler. Enfin, c'est ça qui est malheureux. Après, si tu creuses et que tu regardes un petit peu dans quelles conditions et quels sont les dommages qui sont faits à côté, que ce soit... Voilà, au niveau du personnel ou des patients, mais mine de rien, bah, les gens continuent à rentrer à l'hôtel, se faire soigner, ressortir. Et avec ce personnel-là, bah, finalement, ça suffit.
Ouais, la terre tremble, mais tenons les murs, quoi.
Mais ouais, ouais. Et t'en as d'autres qui disent, bah, en fait, si on fait ça, on leur donne raison sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'un poste en plus, qu'on est capable, nous, de compenser ce travail-là. Et effectivement, elles en sont capables jusqu'à un certain terme, jusqu'au moment où t'en as la moitié qui se met en arrêt maladie. Parce que, en fait, non, c'est pas possible.
Ce que tu dis là peut être assez angoissant dans le sens où, enfin, le moment où ça craque, il est individualisé, quoi. Même ça, c'est très individualisé, c'est du craquage personnel, quoi. La place d'un rapport collectif face à ce craquage-là, c'est, selon toi, il n'existe pas, il est plus possible, il ne l'a pas été, enfin...
Moi, je pense que pour l'instant, il n'existe pas, que c'est un truc qui peut arriver, mais... Après, ça, c'est ce que m'avait dit une des formatrices que j'avais à l'école qui nous disait « Attention, l'hôpital, il est en train de changer. » En fait, t'as un rapport de... simplement de l'offre à la demande où avant, infirmière, tu pouvais le faire où tu voulais, quand tu voulais, sans aucun problème. C'est vraiment le boulot où t'avais toujours du boulot. Et du coup, ça faisait que tu pouvais avoir des modes de vie aussi assez étonnants pour des nanas, tu vois, qui n'avaient pas des schémas de travail classiques, mais qui se retrouvaient à bosser 6 mois, à s'arrêter. Et maintenant, ça a complètement changé. T'as une offre où t'as de moins en moins de travail, parce que simplement ils resserrent les vis, etc. Ils embauchent de moins en moins. Mais du coup, qu'il faut changer son rapport au travail, c'est-à-dire être capable de se dire, en fait, là, les conditions ne vont pas. En même temps, je suis obligée d'y rester, parce qu'il me faut un taf. Mais du coup, il faut apprendre à lutter. Et ce qui n'existe pas encore, j'ai l'impression. Et moi, de ce que je vois des services où j'ai été, effectivement, t'as évidemment... Elles sont scandalisées par leurs conditions de travail, le travail qu'elles fournissent, la prestation de soins, enfin tu vois tout ça. Et en même temps, pas d'habitude de lutte encore qui existe. Et notamment dans le public où en plus, même les envies de lutter, elles sont brimées par le fait que c'est compliqué, tu bosses aussi dans le soin et t'as arrêté de travailler, ben ça se fait pas comme ça. Enfin ça veut dire... Tu vas pas laisser des gens sur le carreau, donc de toute façon t'es réquisitionné et tu travailles juste avec un petit bandeau qui dit en grève. Donc t'as pas le même rapport à la lutte. De fait, enfin, dans le privé c'est un peu différent. T'as ce coup, elle s'arrête de travailler et du coup t'as une culture de lutte dans les cliniques privées. J'ai l'impression, en tout cas, qui depuis quelques années est en train de naître, où t'as des grèves très très fortes et collectives, mais aussi parce qu'elles arrêtent vraiment l'activité. Et qu'après, les patients sont renvoyés vers le public. On parlait des moments de pause. Effectivement, ils sont rares, mais quand on les a, ils tournent essentiellement autour des conditions de travail et du fait que c'est intenable. Mais toutes, qu'elles soient là dans le service depuis 6 mois ou depuis 10 ans, qui hallucinent du travail qu'on est en train de faire. Et qui, simplement, je pense que les temps de pause, la moitié est pris à se dire « Putain, c'est ouf, on est en pause. »
Ouais.
Tu vois, c'est putain, trop bien. Et du coup, au petit soin, tu sais, on se fait un café, c'est quand les deux secteurs sont en pause en même temps, c'est un peu jour de fête, tu vois.
On va même pouvoir aller pisser. Enfin,
ouais, voilà, on peut aller pisser, changer de tampon, tout un tas de trucs qui sont quand même pas mal. Mais du coup, au niveau de lutte collective, après, je suis pas allée voir les syndicats, ce que ça donne à l'hôpital. Je sais qu'il y a des... Après, t'as des... Mais comme dans pas mal d'endroits, t'as des services qui ont plus cette culture-là que d'autres, qui sont plus en grève qu'autres. Je sais pas forcément pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, en fait. Mis à part, je vois dans les blocs opératoires où t'as les infirmières anesthésistes, les IAD, et les IBOD, les infirmières de bloc, qui se mettent plus en grève, mais elles ont un impact sur l'hôpital qui est complètement différent, parce que du coup, quand elles s'arrêtent de travailler, ben, les blocs tournent plus, et elles peuvent le faire. C'est-à-dire que du coup, les blocs urgents continuent à fonctionner, mais elles peuvent vraiment être en grève, et vraiment... verrouillés.
Un instrument du rapport de force qui est...
qui n'a pas du tout dans les services classiques où...
Oui, où les soins, il faut les... Enfin,
il faut qu'ils continuent.
Les soins quotidiens, il faut qu'ils continuent et...
Ouais.
Il y a moins de possibilités de suspendre un temps...
Tu peux pas, tu peux pas le suspendre, en fait.
Clair et net, ouais. un fonctionnement, quoi.
Ça, mais après, c'est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a un tel turnover et un tel changement de... possibilité de changer ou de resto ou d'hôpital ou de secteur, etc. Ouais. Que jusque-là, voilà, bon, t'arrivais toujours à trouver un endroit où c'était un peu mieux qu'avant. Mm. Potentiellement, on peut aussi imaginer qu'on arrive un peu à la fin de ce moment où tu vas tomber sur quelque chose d'un peu mieux à côté, quoi.
Mais c'est déjà... Je sais pas où on va arriver, c'est que c'est en plein dedans. C'est que maintenant, les infirmières, tu vois, quelques promotions avant la mienne, on venait les chercher à l'école. Maintenant, c'est plus le cas, vraiment. On postule pour des... Enfin, tu vois, t'as des entretiens d'embauche qui sont pas faciles. D'accord. Rentrer à l'hôpital, avoir une place comme j'ai moi en CDD, ben, en fait, il y en a plein qui seraient très très contents de l'avoir. Cette loi du marché, elle existe vraiment chez les infirmes maintenant. Après, il manque... C'est assez récent, et je pense qu'il y a un truc qui va se construire autour de ça, qui demande un peu de temps. Le rapport au travail, il va être complètement différent.
On peut gager du coup de nouvelles stratégies de lutte vont se mettre en place aussi, de nouvelles formes d'organisation collective au sein de l'hôpital pour pallier au craquage, vont peut-être se développer.
Forcément, mais après ça va arriver, je pense, à des moments de tension où ce ne sera pas possible autrement.
Et juste, t'as des mots d'argot ou des mots spécifiques qui sont liés. Que vous utilisez entre vous, qui sont vraiment spécifiques à votre travail.
Non, j'en ai pas qui me viennent comme ça. Je pense que pourtant, vous allez avoir tout un vocabulaire, effectivement.
Qui est complètement intégré, donc.
Ouais, c'est ça. Après, si, on en parlait avec une copine, mais simplement sur tout le vocabulaire, parce que c'est une copine qui travaille pas mal sur l'hypnose, et le vocabulaire hyper angoissant qu'il y a dans les soins de... Le triangle qui est au-dessus du lit, c'est pour qu'il t'aide à te tenir, ça s'appelle une potence. Tu vois, le truc que tu mets autour du bras pour faire une potence, c'est un garrot. En fait, tu dis à quelqu'un, je vais vous mettre le garrot, c'est hyper angoissant. Et tenez-vous à la potence, tu sais, ça va vous aider. Non, ça c'est...
Ah, c'est vrai.
Un langage barbare.
Ouais, enfin, hyper... Ouais, mortifère au possible.
Moi, j'avais une dernière question, après la dernière question... Et tu penses que tu vas faire ça longtemps ?
Toute ma vie.
Ouais, toute ta vie, c'est parti ?
Je ne sais rien. Non, je crois pas. Et en tout cas, pas dans l'hôpital. Après, j'ai du mal à me projeter un peu. Mais simplement, je me dis, c'est le genre de métier où je pense que tu t'uses assez rapidement. Et que pour trouver des formes, enfin, juste faut que je trouve une forme qui me convienne bien. En tout cas, dans l'hôpital, avec ce rythme de travail, j'espère, moi, que je le ferai pas trop longtemps. Parce que sinon, rapidement, je vais vraiment être très loin des pratiques que je veux avoir. Et que j'aurai pas l'énergie pour y réfléchir et prendre suffisamment de distance et me remettre en question tout le temps, dans ce que je fais.
Cool, merci.
Merci. Bon, on est trop charrette pour conclure, mais on espère que c'était nourrissant. Et puis c'est pas bien grave, on se retrouve le mois prochain.
Et du coup, après avoir parlé du démantèlement de ce qu'on appelle le service public, la poste et l'hôpital en l'occurrence, eh bien on ira plutôt voir du côté de la restauration, où je pense qu'il y aura aussi pas mal de choses à se dire.
N'hésitez pas à faire tourner cette émission. Elle est disponible sur le site de Canal Sud, canalsud.net.
Puis vous pouvez aussi nous écrire. Et ça se passe à l'adresse mail laturbinetoulouse, tout attaché, @riseup.net.
En attendant, pour nous raconter des choses, nous parler de vos boulots, vous parler des nôtres...
Eh bien, on peut aussi le faire à la permanence du collectif pour l'autodéfense de classe, dont on vous parlera mieux dans des émissions, on aura plus le temps de le faire. Permanence qui a lieu tous les vendredis à partir de 17h au petit nouveau local du Camarade, qui est situé au 54 boulevard Déodat-Sévrac, à côté du métro des Arènes. Tous !
Salut !